Merci beaucoup, Liliane Alsfrench. Effectivement, je crois qu'il n'y aura pas de débat contradictoire parmi les membres du panel. Parmi les fils conducteurs qui ont traversé vos trois interventions, on peut citer l'intersectionnalité du féminisme, le danger de la hiérarchisation des priorités au détriment des droits des femmes, et aussi ce contexte ambivalent, ce en même temps dont nous parlerons peut-être plus tard, parce qu'il recèle bien des dangers. Pour l'instant, nous laissons la place au public. Et est-ce qu'il y a des questions parmi vous ?
Hélène, un micro ? Pas de questions ?
Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, je vais me présenter. Je suis Lila Sansa Omba. Je représente la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise. Nous sommes très heureuses avec l'une de nos, de personnes qui fait partie aussi de notre organisation. Donc, on est vraiment heureuses d'être présentes ici. Par contre, c'est vrai que toutes les questions qui ont pu être abordées pour nous ne reflètent pas trop le problème que le Congo, la femme congolaise, vit dans son quotidien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, je pense que vous devez connaître sûrement le docteur Mukwege, qui a été le prix Nobel qui réparait les femmes, comme on dit. À part son action à lui, c'est vrai que force est de constater que la femme congolaise est une femme qui est complètement abandonnée, même détruite, depuis un certain temps, détruite dans son corps, détruite également au travers des mœurs, par des chansons qui, au fil du temps, ont dégradé cette femme. Moi, j'en veux, pour exemple, j'ai eu des grands-mères, j'ai 41 ans, mais mes grands-mères et même mes mamans, elles n'avaient pas du tout physiquement cette dévalorisation de la femme. On est un pays qui est quand même matriarcal à la base. Et tout ce que vous avez tout à fait raison de dire, que les sociétés patriarcales ont tendance à vraiment détruire la société. Et la nôtre, en fait, nous, on assiste de notre vivant à la destruction de la femme congolaise. Et ce qui est un petit peu dommage de voir qu'on ne fait pas grand-chose pour ces femmes. On a du mal à avoir un tribunal pénal international pour reconnaître tous les viols qui se font. On se bat. On a l'impression que rien n'est fait. On a quand même 48 viols par heure. On appelle Kinshasa la capitale du viol. Là, je ne vous parle que de la femme, je ne vous parle même pas des bébés, parce qu'il y a un phénomène des bébés qui sont violés de 18 mois. Et quand on dit violer, ce n'est pas que pour des raisons sexuelles, c'est même pour détruire l'organe génital de la femme. C'est vraiment une arme de guerre. Là, je vous parle juste dans un contexte de guerre, sachant qu'il y a également la violence quotidienne au travers de l'emprise des églises à côté, parce qu'on a des violences, des viols qui sont faits par des pasteurs, parce qu'ils ont vraiment une emprise psychologique sur la population congolaise. Sans compter les violences domestiques. Donc vraiment, je pense que notre venue aujourd'hui, ça nous apporte, parce que on va un petit peu s'inspirer de ce que vous faites. On a un souci d'éduquer notre population, parce que pour nous, parfois, il y a des violences que c'est admis, on trouve que c'est normal. Alors que ce que vous dites, quand on a un pays démocratique, c'est pas normal. Donc on est entre les deux. Alors ma question, ce serait de savoir comment... les Européens, nous on vous appelle les Mindélés, c'est-à-dire les Blancs. comment vous pouvez arriver à aider la femme congolaise à se reconstruire, pas uniquement physiquement, mais dans son mental, voilà, sachant que on est une génération, nous encore, qui sommes là pour agir et réparer ces femmes. Et je ne vous parle pas des jeunes filles aujourd'hui qui sont contraintes de se prostituer pour pouvoir faire vivre leur famille, sachant que moi, quand j'ai quitté mon pays à l'âge de 6 ans, j'en ai 40, ce phénomène n'existait pas. Donc, vous voyez, en très peu de temps, c'est une population qu'on est en train de détruire, parce que l'intérêt n'est ni plus ni moins qu'économique, parce que c'est le pays qui a le plus de minerais, et que tout ce qu'ils utilisent, nos portables aujourd'hui, et toutes les matières les matériaux que vous utilisez, c'est fait à partir des minerais du sol du Congo. Donc la situation de la femme congolaise est beaucoup liée à la géopolitique. Et je pense que ce serait vraiment bien que notre présence, elle est là, c'est de nous dire on a besoin que le monde s'intéresse en vérité au sort de la femme congolaise. Donc voilà. C'est une question et plus ou moins un constat. Je suis en direct avec eux, donc ils vous suivent aussi, c'est pour ça que je suis un peu connectée, Et voilà, est-ce qu'on peut arriver à avoir le point de vue par rapport même à l'initiative et toutes les structures, même parlementaires, parce que là, je vous parle, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Donc, on a besoin de l'aide de toutes les femmes qui sont présentes pour nous aider à relever notre pays. Donc, voilà. Ouf.
On va prendre d'autres questions, puis faire une réponse globale.
Merci d'être là et merci à toutes et à tous. Je voulais intervenir avant. Je m'appelle Denise Brial. Je suis une professeure d'éducation physique et sportive à Boulogne-Billancourt pendant 40 ans. Et militante féministe des années 70, et j'ai pris le moyen de faire des films, tous les films dans le, enfin, des films militants féministes, portraits. Je fais ma pub parce que si vous voulez le dossier de presse, il y en a ici. De telle sorte à ce que notre mémoire reste intacte, voilà. Et ça, je pense que c'est très important. D'autant plus que dans les films que je fais, il y a les portraits mémoire des résistants et des résistantes. Et bien sûr, anti-nazis, comme vous pouvez vous en douter. Donc, je dis ça parce que il y a de tout maintenant. Alors, pour en revenir à ce que j'ai entendu, et je remercie Liane French, qui est une amie militante, que je connais depuis le début de son combat et même avant, quand elle était au ministère des Sports. Moi, je voudrais dire... en fait, c'est la question à tout le monde ici. Je voudrais dire que nous sommes dans une convulsion historique, à mon avis, où la jeunesse, puisque moi, j'ai eu affaire à la jeunesse aussi, la jeunesse se pose les vraies questions dans le monde. Et que les révolutions qui se passent en ce moment sont d'ordre social, sociétal, c'est-à-dire celles qui se passent dans le monde, que ce soit de Tokyo au Chili, partout, puisque je me tiens, comme vous, informée des soubresauts. Alors, je voudrais répondre à toi, du Congo. Denis Mugabe est venu ici, Madame Hidalgo l'a invité il y a 3 ans, je crois, et nous avons connu tout son combat, enfin nous le connaissions déjà. Alors qu'est-ce que je pourrais te répondre? Je pourrais te dire que de t'informer de ce qui s'est passé en 95, et il y a beaucoup de documents là-dessus, y compris des films, pas forcément les miens, et donc en 95, rappelle-moi, à Pékin, voilà, la conférence de l'ONU à Pékin, où là, il y avait une coordination des femmes mondiales. C'était extraordinaire ce qui s'est passé à Beijing, à Pékin. Et ça, il faudrait essayer de... Si on peut faire, on ne peut jamais faire la même chose. Pourquoi? Parce que les soubresauts historiques ne sont pas les mêmes. Là, en France, nous avons l'effondrement des partis démocratiques. Bon, cherchez l'erreur. Nous avons la montée... Non, mais oui, mais ce n'est pas pour rien qu'il y a ça non plus. Je vois la camarade de la CGT qui, évidemment, nous avons, nous, connu le problème d'Antoinette, la revue cégétiste féministe qui se sont battues contre les gros machos des appareils, parce qu'il faut que vous sachiez, en 70, derrière les féministes, il y avait en service d'ordre les cégétistes qui étaient des gros machos militants et qui n'aimaient pas les féministes. Et nous avons là, par contre, j'ai un film là-dessus, si ça t'intéresse, on peut diffuser. Non, mais parce que la mémoire, il y a une maladie de la mémoire en ce moment. Ça, c'est un vrai problème de société. Et la mémoire de tous et de toutes, nous devons la transmettre, bien évidemment, aux générations suivantes. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites dans l'organisation de débats comme le vôtre, Liliane et toutes les femmes qui sont ici, j'en ai vu de Tunisie, j'en ai vu du Liban, on a déjà pris contact, moi je suis une internationale quand on vient du sport, on est international. En plus, il y a les Jeux de Paris. En 2024, on se demande quelle forme ça va prendre. Quand on sait que Coubertin était un ami d'Hitler, moi, ça m'interpelle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'interpelle personne.
Alors, on a voilà,
j'ai fini.
Pour non, le débat,
parce que j'ai beaucoup à dire. Vous comprenez comme vous voyez.
Je comprends. Mais alors, ça sera possible pendant la pause aussi. Donc, si vous voulez
gentil,
donner votre
c'est
question.
C'est gentil. Je m'appelle Denise Brial. Et vous pouvez prendre le dossier de presse ici avec l'autorisation de Liliane Holfrench. Merci.
Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ?
Samedi.
Merci, merci beaucoup pour ce débat, vraiment, très instructif. Et en même temps, on se rend compte que partout, en fait, les chiffres se croisent et se ressemblent. Et moi, je fais partie du Fonds pour les femmes en Méditerranée, qui est un fonds féministe qui renforce et soutient les associations de femmes tout autour de la Méditerranée. Et nous participons à un travail de plaidoyer pour avoir plus d'argent pour les femmes, pour les droits des femmes. Et je voulais savoir, justement, que ce soit avec Claire ou avec vous, Zeyna, est-ce que vous avez de l'argent pour faire ce travail-là ? Est-ce que vous avez les moyens ? Quels sont les moyens, justement, qu'on met à votre disposition pour faire ce travail ? Et quels sont les obstacles auxquels vous faites face dans votre travail ?
Merci. On va encore prendre deux questions avant la première série de réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatma Boufnik, féministe d'une organisation algérienne. Je suis de passage et je suis très contente d'être parmi vous. Je voulais aborder, je ne vais pas apporter un témoignage par rapport aux violences que les femmes algériennes subissent dans le Hirak, mais c'est lié. Je pense que nous avons toutes et tous intérêt à sortir de l'enfermement des formes classique et orthodoxe des violences faites aux femmes, notamment avec les nouveaux moyens de communication et aussi les nouvelles formes des mouvements sociaux, ce qui met les femmes aussi dans de nouvelles formes de violence auxquelles nous devrons particulièrement nous y pencher. Parce que ça a des conséquences sur la lutte des femmes, et notamment dans les contextes actuels en Algérie, au Liban et au Soudan, etc. Merci. Chili, j'oublierai pas le Chili.
Chili, on a encore une question.
Merci, bonjour tout le monde. Je viens de Tunisie. Et j'ai, d'abord, je remercie les intervenantes pour tout ce qu'elles nous ont appris, tout ce qu'elles ont rappelé. On a parlé spécialement de jeunesse et de solidarité internationale. Je voulais juste rendre compte d'un cas que nous vivons en ce moment en Tunisie. C'est le cas d'un député qui vient d'être élu, 2019, et qui a été surpris en situation de harcèlement sexuel. La jeune fille est allée porter plainte, encouragée par ses parents. Elle est allée porter plainte, et bien sûr, l'affaire est entre les mains de la justice. Là, pour ça, l'affaire est en cours. Ce que je voulais signaler, c'est que dès que cette jeune fille s'est exprimée, qu'elle a parlé, il y a eu un mouvement énorme de jeunes tunisiennes qui se sont exprimées à l'image du mouvement MeToo. Alors, en arabe, ça a donné NAZ. Pour nos amis du Moyen-Orient, NAKAMEN. Et NAKAMEN est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et donc qui est en train de faire parler de lui. Ce sont des jeunes filles qui se sont donc inspiré du mouvement MeToo, donc au niveau international, et je trouve que c'est une affaire qui est en train d'ébranler un peu toute la classe politique et je dirais même une grande partie de la société tunisienne. Voilà, merci.
Nous laissons la place à présent aux intervenantes pour répondre aux questions, puis nous prendrons une deuxième série de questions. Merci.
Qui veut répondre ?
Moi, je veux bien parler. Oui. Oui, je voudrais répondre à notre amie congolaise. Le mot magique, c'est solidarité. Et c'est sûr qu'on ne sortira pas de cette salle sans voir comment on peut mettre en place quelque chose. C'est sûr. La deuxième chose, c'est que j'avais lu quelque part, je ne me souviens plus où, que les féministes finlandaises disaient que pour réussir en politique, il fallait du temps, de l'argent et des réseaux. Et que les femmes n'avaient ni les uns ni les autres. Et je crois que c'était une belle façon de voir les choses, puisqu'on a parlé de l'argent. C'est vrai que c'est intéressant. Mais ce qui me motive là, c'est cette histoire de silence. C'est le silence. Je regrette que mon amie Sylvie Cromer, qui a piloté l'étude sur les violences faites aux femmes, l'étude nationale en France, ne soit pas à Paris en ce moment. Parce que c'est quand même, on sait d'après les statistiques, grâce à ces études de violence, qu'on a environ une femme sur 10 victime de violence qui porte plainte, victime de viol qui porte plainte. Et sur les 10 cas sur 100 pour lesquels les femmes portent plainte, un cas donne suite à des poursuites judiciaires, à des suites judiciaires. Donc ça, cette loi du silence, et je voulais vous raconter une anecdote parce qu'elle est très symptomatique. Quand Denise l'a rappelé, j'ai travaillé dans les ministères à un moment et je faisais partie de la coordination interministérielle sur les violences faites aux femmes. Et un jour, j'ai reçu dans mon bureau une femme assez âgée qui avait un petit opuscule comme ça. Elle me dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai écrit ce livre. De quoi s'agit-il, madame? Il s'agit d'un livre qui raconte ma vie. Oui, madame, mais vous savez à qui vous vous adressez. Oui, mais c'est 30 années de violence que j'ai subies de la part de mon mari. Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Comment est-ce que c'est possible? Et elle répond, mon mari était un dirigeant politique. Il avait des responsabilités dans un parti que je ne nommerai pas. Et je n'ai pas voulu nuire ni à sa carrière, ni à son parti. Donc voilà, j'ai attendu. Maintenant, il a pris sa retraite et je peux venir vous voir. Je veux témoigner. Donc ça résume quand même bien une très large partie de ce qui est dit ici et de l'énorme masse de plomb qui pèse sur la parole des femmes et qui les empêche. Donc MeToo, oui, ok, MeToo, mais on a une partie cachée de l'iceberg pour le moment. Et voilà, j'espère que on va pouvoir avancer sur cette voie. Enfin, je pense que il faut que nous nous mobilisions tous et toutes autour de Pékin plus 25. Quelqu'un a souligné l'importance majeure de Pékin. Il faut se mobiliser absolument pour faire que Pékin plus 25 ressemble à quelque chose et ne soit pas phagocyté par des structures ou des organisations qui ne vont que faire que vider le processus de sa substance. Donc il faut que nous, les féministes, et toutes les composantes il faut qu'on les entraîne, toutes les composantes du mouvement démocratique soient avec nous pour faire de Pékin plus 25 une avancée sur la question des droits des femmes au plan international. Merci.
Très rapidement, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au service d'ordre de la CGT, le fameux service d'ordre qui en réalité s'appelle accueil liaison. Accueil, lutte et sécurité, puisque ça fait moins peur. J'ai pris l'habitude de les chambrer quand je les croise en manif, parce qu'effectivement, c'est des bastions syndicaux extrêmement masculins. Sur la place parisienne, c'est les syndicats du livre parisien essentiellement, et c'est des gens qui sont... C'est eux qui avaient du mal avec la question du droit de travailler des femmes il y a 100 ans en arrière. Ils commencent à prendre conscience, et on commence à voir des femmes dans le service d'ordre. Il n'y a pas besoin d'être championne de lancer de marteau ou autre, donc d'avoir un physique en fait qui serait. Et en fait, ils en prennent conscience que c'est important d'avoir des femmes parce qu'ils sont en train de s'interroger sur le fait de se dire si on met des femmes en première ligne, les CRS chargeront peut-être pas. Donc en fait j'essaie de leur expliquer que c'est essentialiste mais c'est déjà bien qu'ils aient pris conscience qu'il faut féminiser les effectifs du service d'ordre où il y a eu effectivement des tabassages de militantes féministes de la part de ce service d'ordre où ils sont très paternalistes aussi. Enfin, moi j'en connais, ils sont très gentils mais c'est compliqué sur les mentalités. Pour en revenir au cœur du débat sur la question de l'argent et des obstacles, honnêtement, la question de l'argent au niveau de la Confédération générale du travail, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois vraiment que le collectif est venu avec l'envie d'imprimer des tracts en très grand nombre, parce que bah, il faut voilà, que ça diffuse partout, les guides ou même financer des études, souvent en partenariat avec des instituts de recherche, etc., il n'y a vraiment jamais eu aucun problème. Parce que derrière, il y a une volonté politique, syndicale qui existe et qu'il faut quand même souligner de manière positive. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas d'obstacles. Et les obstacles, ils sont, je dirais, de trois natures. Il y a d'abord, pour en revenir à ce que disait Liliane, c'est la question du silence. Et c'est pour reparler de cette cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles. Ça existe au niveau confédéral et ensuite charge à chaque organisation syndicale de la diffuser auprès de ses adhérentes et adhérents. Et c'est là où le bât blesse. C'est-à-dire que la CGT est structurée de telle sorte qu'on respecte vraiment l'indépendance des syndicats de base et on ne peut pas leur imposer des choses. On ne peut pas. De même que si on sait que dans un syndicat, il y a un individu qui a été condamné pour viol, violence conjugale et autres, la Confédération n'a pas le pouvoir d'exclure cette personne. C'est au syndicat de prendre ses responsabilités. Et il y a un entre-soi masculin qui est encore très fort, qui fait qu'on va se protéger entre camarades, même quand les actes sont très répréhensibles. Ça existe. Dans un syndicat, Mediapart en a parlé, le syndicat de la propreté de la ville de Paris, CGT de la propreté de la ville de Paris, qui n'est pas très loin d'ici, où il y a une culture vraiment de l'entre-soi masculin. Il y a eu des choses extrêmement graves qui se sont produites. Et les femmes, elles n'ont pas eu d'autre choix que de cesser de tenter de laver le linge sale en famille, comme on dit, pour exposer ça sur la place publique en mettant Mediapart dans le coup. Il y avait eu une intervention très haut placée au sein de la Confédération pour faire plier ce syndicat qui a dit en fait, les statuts sont tels, moi, je, Philippe Martinez ou pas, on n'exclura pas en fait ce militant. Ça existe. Et sur la cellule, et là, ça a été voté dans le document d'orientation au précédent congrès, la cellule de veille va maintenant rendre des comptes à la commission exécutive confédérale, donc va communiquer sur ce qui se passe au sein de cette cellule avec une diffusion des comptes rendus. Et ça, c'est extrêmement important puisque dans l'ancien mandat, il y en avait qui bloquaient, c'est-à-dire, OK, il y a la cellule, mais on ne veut pas savoir trop ce qui s'y passe et ça doit être écrit nulle part. Pour maintenir l'illusion qu'il n'y a pas de problème au sein de la CGT. Voilà, d'une part, et aussi pour protéger les petits camarades qui ont commis des choses qui sont passibles du pénal. Donc ça, c'est en train d'évoluer positivement. Deuxième obstacle, je dirais, c'est quand même, et j'en ai parlé dans mon intervention, l'aspect subsidiaire du combat. Je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'unions départementales, de FEDE, qui n'ont pas de référente sur les questions droits des femmes, femmes mixité, ou pas de collectif. Ce qui fait que quand on organise des réunions au niveau national, au niveau confédéral, c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes qu'on croise, qui sont très très convaincues. Mais le jour où ces personnes partent à la retraite, ou alors arrête de militer puisque ça existe aussi, bah pouf, en fait, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est très compliqué de faire bouger les mentalités là-dessus. Et c'est en lien avec le troisième obstacle, c'est le vivier de femmes militantes. Là, il y a un gros, gros, gros problème. Seulement 38% de femmes syndiquées, ça ne veut pas dire que c'est 38% de femmes militantes. Et on le voit à chaque fois qu'il y a l'appel à candidature pour les commissions exécutives, etc., c'est compliqué de trouver des femmes, surtout quand on croise avec le critère jeune, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un certain nombre. Un jeune à la CGT, c'est quelqu'un qui a moins de 35 ans. Donc c'est tout plein de critères qui sont croisés pour essayer de refléter la diversité du salariat. Donc tout ça, ça devient très compliqué. Et j'en ai pas parlé, donc je vais le faire très rapidement. Il y a une étude, une grande enquête qui a été menée qui s'appelle Femmes. La CGT, vous la voulez comment ? Il y a 10 000 femmes qui ont répondu à ce questionnaire. qu'elles soient syndiquées ou pas. Et il y a eu une enquête beaucoup plus qualitative de mener auprès des anciennes responsables syndicales au niveau confédéral, qui donc étaient élues à la fameuse commission exécutive, qui regroupe 60 membres à parité exacte, donc 30-30, élus pour 3 ans. Et ils ont mené une étude en interrogeant les femmes qui sont passées en mandat depuis 1999, depuis que la parité a été instaurée. Et il ressort, au niveau des statistiques déjà, que 30% des hommes qui ont été élus dans cette confédération, dans ce collectif confédéral, ont fait un seul mandat. 46% des femmes ont fait un seul mandat. Donc on voit que sur le cumul des mandats dans le temps, c'est beaucoup plus un truc masculin que féminin. Et s'en est suivie une enquête qualitative pour tenter de comprendre, et c'est l'articulation des temps de vie militants. Enfin, pour les femmes militantes, c'est pas la double journée, c'est la triple journée. C'est le fait qu'elles ne sont pas aidées davantage dans leur foyer par rapport aux enfants, aux tâches ménagères, domestiques, parentales, etc. Et c'est le fait que, bien souvent, et c'est là où il y a un vrai sexisme qui existe, comme ce sont les syndicats qui présentent des femmes, qui présentent les candidatures de femmes, les femmes, elles vont être beaucoup plus humbles, je pense. Elles se disent, moi, je ne veux pas cumuler des mandats, avoir un mandat dans mon organisation syndicale, un mandat au niveau confédéral, un mandat, des mandats partout. Là, on voit des hommes cumuler. Et donc, elles lâchent le mandat qu'elles ont dans leur syndicat dit de base pour se consacrer pleinement au seul et unique mandat qu'elles ont et vouloir le faire bien, ce qui fait qu'elles perdent pied avec le terrain, leur syndicat de base. Et in fine, ils refusent, il y en a qui refusent de les représenter parce qu'elles n'ont pas assez milité avec nous pendant 3 ans. Et elles disent, on ne peut pas être au four et au moulin. Et là où les hommes, eux, il y en a beaucoup qui n'en ont rien à cirer, de faire tout mal. J'ai plein de mandats, j'en fais aucun correctement, mais ce n'est pas grave. Et je suis un peu partout, mais en vérité, je suis nulle part. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à constater. Et juste pour le point sur la situation au Congo, moi, ça me fait penser à l'exode aussi des Congolaises, des femmes d'Afrique subsaharienne qui viennent travailler en France. Parce que la situation est telle dans leur pays, il n'y a pas de travail, il y a des violences. Du coup, elles arrivent en France dans des conditions absolument épouvantables. On en retrouve dans les réseaux de prostitution. Vous en avez parlé, c'est ce qu'on retrouve dans certains quartiers à Paris. Et puis, on les retrouve aussi dans des emplois, les secteurs dits féminins. Donc, c'est les assistantes maternelles. C'est des métiers complètement atomisés, extrêmement précaires, avec une relation vraiment très individuelle avec l'employeur. Donc, elles peuvent être exposées à toutes sortes de violences, quelles qu'elles soient. Et là, il y a une lutte extrêmement importante en cours à l'Ibis des Batignolles à Paris. Ce sont que des femmes de ménage qui sont en lutte. Que des femmes de ménage d'origine d'Afrique subsaharienne, qui certaines n'ont pas de papier. Donc c'est extrêmement courageux de leur part de s'exposer dans une lutte alors qu'elles risquent une reconduite à la frontière. Et le point de départ de cette lutte, c'est qu'il y a une des femmes qui a été violée par le directeur de l'hôtel, qui depuis a été déplacée d'hôtel. Et s'en est suivi des revendications pour leur salaire, etc. Mais on voit qu'il y a une exportation, entre guillemets, de la lutte qui se passe au Congo sur le terrain français. Et les syndicats, là, la CGT en tout cas, elle agit vraiment sur le terrain français. Et après, sur la situation au Congo, il y a des réseaux internationaux qui existent.
Claire, on vous écouterait toute la journée. Mais malheureusement la séance doit se terminer et surtout Zena doit partir. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle réponde aux questions. Et puis je suis sûre que dans les autres séances, vous aurez l'occasion d'intervenir.
Merci beaucoup. Oui, je vais repartir pour Genève. Voilà. Le devoir m'appelle. Moi, j'aimerais juste finir sur 2 choses. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vraiment répondre à votre question parce que les sources de financement sont tellement rares, finalement, et tellement limitées. Mais je pense que déjà, le fait de pouvoir se revendiquer en tant qu'association, en tant qu'individu, comme féministe, je trouve que c'est déjà pas mal. Je veux dire, aujourd'hui, je peux voir un développement à ce niveau-là. Moi qui travaille avec des parlementaires du monde entier, il y a 10 ans, dire féministe, c'était tout de suite un groupe fermé un petit peu. Et maintenant, on voit de plus en plus d'ouverture sur le sujet féminisme égal, égalité entre hommes et femmes. Et voilà, il y a un peu plus d'ouverture à ça. Donc j'espère que ça va faire suivre aussi les soutiens à la question. Moi, je voulais finir par deux choses. La première, c'est la libération de la parole. On parlait de constat des problèmes, c'est un problème réel et sans libération de parole, on ne peut pas connaître le problème et pouvoir éventuellement le solutionner. Donc, comme vous disiez, ce qui se passe là dans le monde arabe sur un MeToo adapté, c'est vraiment bien et je trouve que c'est un message très très positif qu'il faut que nous tous, on essaie de relayer autant que possible. Mon deuxième point, c'est sur le rôle des hommes. Je pense que souvent, quand on parle des questions de droits des femmes, on est souvent entre femmes. Mais là aussi, je veux rester positive et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont pas comme avant, juste qui se sentent un peu concernés. Oui, c'est très bien, faites votre petite popote, ça va, on vous soutient, on est derrière vous. Je vois, en tout cas dans mon domaine, de plus en plus d'hommes réellement, je dirais, féministes. En anglais, on dit genuinely. Voilà, ils voient l'importance de la chose. Il y a des réseaux féministes dans les parlements maintenant, notamment en Finlande, par exemple, et c'est un réseau formé de femmes et d'hommes. Et je pense que ce sont des choses excellentes et il faut qu'on inclue les hommes beaucoup plus dans nos débats autant que possible, en tout cas quand ils le veulent bien. donc voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. J'ai été ravie d'être là. Et s'il y a d'autres questions, mes contacts sont disponibles auprès des organisateurs. Merci beaucoup et je m'excuse de devoir partir.
Merci. Merci beaucoup. Avant de clore la séance, on va prendre une brève question de Amal qui avait souhaité s'exprimer auparavant.
Thank you. My name is Amal. I'm from occupied Palestine. Actually, you mentioned that women become more aware to defend their rights. They have more information to access, different avenues to gain their rights. Women make a lot of efforts to dismantle the patriarchal structure and the militarization structure, and they are become more aware on the relations between the two structures and the main concepts of these structures. But my question to the CGT, do you also develop tools for justice to protect women's rights, working women rights, immigrants, workers? As an example, in the law, in the labor law in France, is there, a section or terms dealing with gender-based violence? And is there specific tools to gain justice for victims on this, issues? This is one question. And the other question is, CGT, what's about your role in solidarity to defend global labor rights? Is there a section? Is there activities? Is there tools? Is there still discourse that had been developed on the issues of defending global workers' rights? Thank you.
Allez, je fais très vite puisqu'on est prise par le temps. Ça, c'est le cœur vraiment de la CGT, effectivement, d'agir aussi sur le terrain de la justice et de l'arsenal juridique législatif. Il y a des lois très importantes qui ont été votées en France. encore assez récemment, et la CGT a toujours été consultée et est derrière pour essayer de pousser pour que ça aille encore plus loin. Puisqu'on est dans un cadre international ici, il y a quelque chose de très important qui a été voté à Genève dans le cadre de l'Organisation internationale du travail en juin dernier. C'est une norme contraignante qui prend position contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Et la CGT était vraiment aussi à la manœuvre dans les couloirs pour essayer de pousser le plus loin possible pour que soit incluse la question des conséquences des violences conjugales dans le monde du travail, du harcèlement, enfin vraiment qu'il y ait quelque chose de... Et c'est contraignant pour les États qui sont dans le giron de l'OIT. Ils ont obligation, dans leur droit, d'appliquer cette norme. La France ne s'est toujours pas prononcée sur quand et comment ils allaient appliquer cette loi. Mais en tout cas, on est toujours derrière pour essayer de pousser. Donc ça, c'est aussi un gros volet mené effectivement sur le terrain de la justice. Oui.